est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Votre nom, entrelacé dans le mien, les chiffres de l'amitié sont comme ceux de l'amour, est aussi connu que mon nom. Qui dit d'Aurevilly, dit Trébucien. Si je deviens, vous serez. Nous sommes solidaires de l'avenir.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Un homme qui a tellement détesté son temps peut-il parler au nôtre? Cette interrogation concerne de plein fouet Jules Barbet d'Aurevilly, qui s'apprête à se trouver de gré ou de force le sujet de notre émission. Sa vie parcourt la plus grande partie du 19e siècle, de 1808 à 1889. Sa mort, survenue quelques semaines avant la célébration du centenaire de la Grande Révolution, lui a épargné de justesse le chagrin de voir honorer des événements que haïssait ce chouant décalé. Poète, critique littéraire, journaliste et surtout romancier du premier rang, déployant une magnifique énergie d'écriture, il a construit son œuvre où brille le chevalier des touches, un prêtre marié, une histoire sans nom et surtout les 6 nouvelles célèbres intitulées Les Diaboliques, selon une temporalité bien spécifique, entre un ancien régime rêvé, une monarchie de juillet ressuscitée, celle de sa jeunesse, et le moment des œuvres majeures des deux côtés de la guerre de 1870 jusqu'aux premières décennies de la Troisième République. Mon invité, Judith Lioncan, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, a construit les beaux travaux qu'elle a consacrés à Barbet d'Aurevilly sur le fond de cet arrière-plan temporel et elle les conduit jusqu'à une quatrième époque, à savoir la nôtre, afin de s'enquérir de la modernité de son personnage. Voilà bien une problématique qui nous convient tout à fait à ce micro, avec, en prime, une réflexion non moins stimulante et pour nous ici non moins opportune, une réflexion qui est centrale aux yeux de Judith Lioncan sur les relations très complexes que peut entretenir la recherche historique avec les œuvres littéraires. De cette question, elle montre chemin faisant la complexité et j'espère bien vous en faire profiter.
On lui dit qu'il avait beaucoup médité sur son propre masque jusqu'aux limites où il pouvait friser la caricature. Il gardait dans sa chambre son pantalon nankin orné d'un galon d'or qui, le long de la couture, descendait de ses pieds. C'est ainsi que je l'avais aperçu un jour, cheminant d'un pas décidé, boulevard Saint-Germain, avec sa cape de conspirateur doublée de peluche orange. Cette cape, souvent, il la gardait chez lui. Elle lui servait pour souligner ses indignations. Quand il la rejetait sur ses épaules, il se drapait dans ses colères. Ses longs cheveux grisonnants tombaient dans sa nuque. Il les gonflait d'une main savante. À chaque instant, j'évoquais devant lui les notables des portraits des musées qui s'immobilisent dans des attitudes matamoro. Et pourtant, vraiment, ce n'était pas le théâtre. La tête toujours renversée quand il parlait, quand il se taisait, quand il écoutait et quand il marchait, était bien d'un homme altier qui se considère comme un souverain, même au fond d'une chambre garnie et à 40 francs par mois. Comment vous décrire cette chambre? Elle tenait du vestiaire de théâtre et d'un coin du marché aux puces où l'on voit des cuvettes voisiné avec les œuvres complètes de Molière. L'ange gardien de ces lieux, qui n'était ni un mauvais lieu ni une sacristie, était une vieille fille anglaise, Miss Reed. Elle soignait le maître et les chats de la maison, divinité mystérieuse qui avait l'avantage de ne pas couper la parole au connétable.
Judith Yoncamp, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert une interview de Ferdinand Bach qui raconte ses souvenirs de Jules Barbey d'Aurevilly, son appartement, etc., rue Rousselet, dans une causerie, le temps est d'époque, de la radiodiffusion française, le 3 décembre 1948. Ce Ferdinand Bach est un curieux personnage. En fait, c'est un dessinateur, écrivain, un peu polygraphe, qui se trouve être le arrière-petit-neveu de Napoléon, figurez-vous, parce que c'est le petit-fils, par la main gauche, de Jérôme Bonaparte, le petit frère de Napoléon qu'on appelait le prince Plomplon, vous savez. Mais ça n'a pas grand rapport avec notre sujet. Ce qui me frappe en écoutant avec vous ce texte, c'est que ça doit être assez difficile de faire la biographie d'un personnage qui s'est lui-même si efficacement défini, posé, figé, à certains égards.
Oui, ce qui est extraordinaire dans ce, très intéressant dans cette causerie de Ferdinand Bach, c'est à quel point les descriptions à la fois du corps, de la vêture, de l'appartement, qui sont stabilisées en fait à la fin du 19e siècle, déjà du vivant de Barbey d'Aurevilly, traversent ces décennies jusqu'à l'après-guerre.
60 ans avant cette archive.
Absolument inchangées, si bien qu'on lit dans des articles du Figaro des années 1860, déjà les mêmes descriptions de cet homme qui est habillé comme on était habillé en 1840, pantalon de nankin ou pantalon à carreaux, la cape, alors la cape peut être une cape selon les capes byroniennes ou une capote de charretier normand qu'il aimait aussi porter, et cet appartement de la rue Rousselet qu'il appelait lui-même son tournebride de sous-lieutenant, c'est-à-dire qui était un appartement pour ne pas se montrer, qui n'était pas un appartement de réception, qui était une simple chambre dans laquelle il ne recevait que des jeunes littérateurs, pour montrer la très grande sobriété et la très grande simplicité de sa vie. Si bien que entre la fin des années 1860 et finalement presque un siècle après, on a le même type de description. Et là où Bach touche quelque chose, me semble-t-il, de très fort, c'est cette idée du masque que Barbey s'est fabriqué probablement justement dans ces années 1860, quand il a acquis une notoriété longtemps attendue comme critique. Et donc, à ce moment-là, il se fabrique un personnage, une posture, des manières de parler, une diction, qui est une incarnation au sens littéral de sa littérature. C'est-à-dire qu'il sera le romantique monarchiste décalé dans le monde du Second Empire, puis dans le monde de la Troisième République.
Mais vous montrez bien, Judith Yoncamp, dans votre préface aux œuvres, aux romans de Barbey d'Aurevilly, que son charme, sa spécificité, son calcul a peut-être été d'organiser ce décalage entre ce qu'il était de fait en homme de son temps, flâneur du boulevard, littérateur venu de Normandie, et ce personnage tel qu'il s'est figé, le connétable, a-t-on dit.
Alors, calcul ou pas, on ne sait jamais rien des intentions. En tout cas, quelque chose a pris, si on peut dire, comme une crème, a pris autour de lui, dans ces années 60-70, lorsqu'il est devenu l'incarnation d'un temps qui n'était plus, mais qui par lui était toujours là. C'est-à-dire la France de la monarchie de Juillet, voire de la Restauration qu'il évoquait dans ses romans, la France d'avant 48. Barbey, d'ailleurs, à propos de modernité, puisqu'on va y revenir, disait, avait sa propre définition de la modernité, était le temps par lequel nous sommes passés, entre parenthèses, 1848. Donc, le passage du temps, pour lui, la pierre de touche de la modernité, c'est cette expérience des années 1840, disons, du monde de Balzac, qu'il a continué à porter, c'est d'ailleurs un des grands défenseurs de Balzac dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qu'il a continué à porter dans une espèce de posture qui n'est pas précisément anti-moderne, puisqu'il se réclame bien d'une certaine modernité, mais qui est une modernité située dans le mi-temps du siècle.
Et si nous considérons les motifs que l'on peut avoir aujourd'hui de le lire, éventuellement de l'apprécier, ou même de l'aimer, en quoi ce que vous venez d'analyser permet-il de le comprendre, au contraire d'inquiéter quant à sa postérité possible ?
Disons que En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans cette historiographie vivante, incarnée qu'il est, c'est-à-dire que tout en lui est une écriture d'histoire. Son corps écrit l'histoire, sa littérature écrit l'histoire, les photos qu'il fait fabriquer de lui-même écrivent l'histoire. Et c'est cet homme-histoire qui m'intéresse aujourd'hui, y compris dans sa capacité à installer une sorte d'inquiétude sur ce de quoi nous sommes contemporains. Une inquiétude sur le contemporain qui m'intéresse chez lui, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on est contemporain. Il construit, alors c'est une attitude politique réactionnaire à laquelle on peut ne pas adhérer.
Réactionnaire au sens propre.
Au sens propre, absolument, auquel on peut ne pas adhérer, mais qui n'en est pas moins intéressante, parce qu'il construit justement quelque chose d'une non-contemporanéité à soi, constamment, mais qui est sa propre modernité dans son temps.
Et qui peut-être, on peut dire cela sans être paradoxal, expliquer pourquoi il peut redevenir notre contemporain en ayant refusé d'être celui de son temps.
Ah ben parce qu'il a traversé le temps comme cela. Donc lire Barbet d'Aurevilly aujourd'hui, c'est faire de toute façon l'expérience d'un décalage.
Alors je souhaiterais que nous le restituions quelque peu pour nos auditeurs, que nous montrions comment ce provincial monté à Paris a précisément défini cette apparence que vous évoquez et qu'évoquait Ferdinand Bach. Il est un de ceux assez nombreux, c'est presque un topos, dont on dit qu'il est né en province, qu'il vient à Paris, que son père voudrait qu'il fasse du droit et qu'il préfère les cénacles littéraires.
C'est pas tout à fait cela. D'abord parce qu'il a fait en réalité des études de droit assez poussées, puisqu'il existe une thèse qu'il a écrite. Et c'est intéressant car la thèse en question s'intitule « Des causes qui peuvent suspendre le cours de la prescription ».
À vrai dire, cela nous conduit directement à cette émission.
Absolument.
Cours de la prescription, au sens juridique du terme.
Au sens juridique. Donc, alors, on peut toujours interpréter, mais il y a déjà une interrogation sur le temps. Donc, il a quand même fait des études de droit assez poussées. Et lorsqu'il est à Paris, donc dans les années 1830, il finit ses études secondaires au collège Stanislas à Paris, puis retourne à Caen pour faire des études de droit. C'est à Caen qu'il commence à écrire de la littérature, mais il n'est absolument pas original en cela. C'est-à-dire que tous les jeunes gens bourgeois de province ou de Paris participent à des revues littéraires. C'est le moment d'un très grand essor des revues littéraro-politiques.
La sienne n'a qu'un numéro, ce qui est pas mal.
Mais oui, la sienne, la revue de Caen, n'a qu'un seul numéro, mais parmi tant d'autres, à n'avoir qu'un seul numéro, ou deux, ou trois. Bon. Mais dans ce début des années 30, il est tout à fait incertain sur le fait de faire de la littérature et de la politique. Et en réalité, pendant longtemps, il se rêve en publiciste. Il écrit pour la presse, il veut participer aux joutes politiques de son temps. La posture légitimiste contre-révolutionnaire qui sera la sienne à la fin des années 40 et puis évidemment après 48, il l'a construit tardivement, plus tard en tout cas.
Pour restituer ce début de cet itinéraire de Barbet d'Aurevilly, je vous propose ce texte de lui où il raconte sa rencontre avec son ami Trébussien. On voit déjà le personnage, y compris quand on réfléchit à la nature de cette amitié inégale. C'est un texte lu par Alain Cuny dans Une voix de Stentor, le 1er juin 1967.
« J'avisais près du pont de Caen ce qu'on nommait autrefois un cabinet littéraire. Et, tandis que je bouquinais, le libraire, tête de Siméon le Stylite, œil vif et profond, front remarquable, me parla. Et je fus frappé de l'accumulation intelligente et habile de son érudition. » C'était un homme maigre, à l'allure pénitente comme un père du désert, avec une jambe repliée, le pied en l'air, une jambe ankylosée infernale. Malgré la différence des conditions apparentes, nous conçûmes, dès le début, cette ardente sympathie que rien ne démentit pendant longtemps. Monarchiste et religieux, d'un catholicisme de fer, Trébussien avait étudié le persan, l'arabe et le turc, et il avait publié dès 1826 des contes persans et des contes inédits des Mille et une nuits. Il fonda cette revue de Caen qui n'eut qu'un numéro et dans laquelle parut Léa, mon premier essai dans la nouvelle que je signais alors Jules Barbet. Trébussien se fit l'éditeur à petit nombre d'exemplaires de quelques-uns de mes ouvrages. La bague d'Hannibal, 36 ans, deux rythmes oubliés, le Laocoon et les yeux caméléons, les poésies. Il savait éditer comme Benvenuto Cellini, Sisley, et il taillait mes cailloux comme on taille des diamants. Ce fut en causant avec cet ami idolâtre que je conçus l'idée d'une série de romans sur les guerres de la chouannerie et qu'il me fournit 1000 documents précieux relatifs à l'histoire des chouans dans le Cotentin. Après un stage assez long à Caen, je vins à Paris. C'est alors que j'écrivis à Trébucien, qui s'ennuyait mortellement dans sa solitude à Caen, cette formidable série de lettres et dans lesquelles j'ai versé le meilleur de moi-même pour les hommes et les choses de ce temps. Trébucien ne semblait vivre que par mes lettres, qu'il recopiait pieusement. Cette correspondance était la communion intellectuelle de ce fanatique d'amitié. J'étais le soleil, la lueur divine, qui arrivait brillante et chaude dans cette lucarne de savant, et je ne manquais guère le courrier qui devait alimenter la ferveur de cet ardent par réflexion.
Peut-être, Judith Liancan, faut-il rappeler qui était Siméon le Stylite, ce personnage du 5e siècle après Jésus-Christ, qui avait vécu dans le nord de la Syrie et qui s'installait au sommet d'une colonne où chaque jour des pèlerins venaient lui apporter des victuailles. On ne devait pas beaucoup pouvoir voir son visage, donc la comparaison peut être discutable, mais symboliquement...
D'autant que Trébutien avait quelques soucis avec ses jambes, donc on imagine mal tenir sur une colonne, mais... Passons.
En tout cas, il me semble que Alain Cuny, le ton d'Alain Cuny correspond assez bien à ce qu'il y a de construit et d'un peu solennel chez Barbet.
Il a très vite investi cette correspondance avec Trébutien à un moment même où il est totalement inconnu, comme le creuset possible d'une gloire littéraire. Ça, c'est très curieux. Avant même d'être publié, avant même d'être connu, il fabrique de la littérature avec Trébutien. Ils sont en affaires littéraires, l'un et l'autre, avec cette conviction que Barbet, qui prend le nom de Dorevilly, qui est celui de sa famille, mais qu'il ne porte pas au départ, avec cette conviction qu'il va percer dans le monde des lettres. Et donc, que tout ce qu'il aura fait, rétrospectivement, prendra de la valeur.
J'attends un peu de bruit autour de mon nom, dit-il. Ouais.
Tout ce qu'il aura fait prendra de la valeur. Donc cette correspondance, elle est tournée vers la postérité, vers la publication, vers l'idée qu'elle sera lue comme l'arrière-plan d'une œuvre littéraire. Donc ça n'est absolument pas le lieu de l'épanchement échevelé où on va trouver des choses qui seraient des mystères qu'on ne pourrait pas révéler. C'est une correspondance qui est toute faite de littérature. Et qui est consacré à la fabrication de littérature. Alors, qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Trébutien copie les manuscrits de Barbet d'Aurevilly. Barbet n'aime pas son écriture et il aime se relire dans l'écriture de Trébutien. Donc c'est déjà une relation qui, psychologiquement, est intéressante.
Oui, un peu inégale, c'est le moins qu'on
peut dire. Très inégale, parce que Barbet, il est à Paris, il fréquente des femmes. Le pauvre Trébutien est censé avoir une vie quasiment monastique, justement, alors qu'il n'est pas sans sentiment. Et Barbet passe son temps à se projeter dans le miroir de cette correspondance. Alors, il fabrique des livres à petits tirages, qui sont faits pour être distribués, mais qui sont des merveilles bibliophiliques, avec cette certitude, en tout cas cette croyance au départ, qu'un jour, on se les arrachera. Donc il y a une pensée du livre, une pensée du rapport entre le livre et le manuscrit, une pensée de la rareté bibliophilique entre ces deux hommes, qui est une véritable affaire littéraire.
C'est une manière pour lui, toujours Barbet, tel que vous nous le décrivez, de se regarder vivre en permanence, de se constituer son propre personnage comme devant
un miroir. Il avait fait un miroir en face de son propre bureau. C'est un homme qui, alors on revient à la description de Ferdinand Bach tout à l'heure, qui s'était figé dans quelque chose. Et cette écriture, ses lettres hebdomadaire, c'est dominical, hein, puisqu'il s'écrivait le dimanche avec Trébutien. Cette écriture est le lieu vraiment d'une fabrique de son personnage, mais aussi de sa plume, de son écriture. Il teste des idées, des phrases, des rythmes, des couleurs.
Tout en zoulant épistolier, on a réédité d'ailleurs récemment. Chez Bartilla, est-ce que je me trompe ?
Non, chez Bartilla, il y a une réédition dirigée par Berthier, de cette correspondance qui est effectivement tout à lire, puisque c'est un texte fabriqué pour être lu comme de la littérature.
Son premier livre important s'appelle « Une vieille maîtresse » 1851. Son style est déjà là, vous allez en juger. Voici un extrait qui est lu par Jean Levray dans la Compagnie des auteurs, C'est une émission du 16 avril 2019.
Oui, notre amour, cet amour qui avait commencé par la haine et qui avait bu du sang pour s'éterniser, était surtout physique et sauvage. Par une prodigieuse exception à la règle commune, ce qui subsistait autant qu'à l'origine de notre liaison, c'était l'influence embrasée qui nous enveloppait toujours, malgré le détachement de nos âmes. Ni la lutte de deux volontés qui s'exaltaient en se résistant, ni les blessures faites l'un à l'autre, ni l'imagination déprise de tout ce qui l'avait charmé, ni la possession incontestée qui tue plus d'amour que le désespoir, rien n'avait détruit cet inexplicable empire dont le secret n'était pas dans nos cœurs.
Cette émission récente était de Mathieu Garrigou-Lagrange. Vous y avez d'ailleurs participé, comme il convenait, Judith Lioncan.
En effet.
Donc, Une vieille maîtresse.
Alors, Une vieille maîtresse, c'est un texte qui est conçu dans les années 40 et qui a quelque chose du roman des scènes de la vie parisienne. C'est la rencontre donc d'un jeune dandy avec une femme qui est déjà une Espagnole, Vellini, qui est laide, mais qui a une sensualité dont il n'arrive pas à se séparer, à se détacher, alors qu'il doit se marier avec une femme qui est évidemment tout son contraire, qui s'appelle Ermengarde, et qui est aussi blanche que l'autre est jaune, qui est aussi pure que l'autre est impure, et qui est peut-être aussi froide que l'autre est chaude. Donc ça commence comme ça, comme cette espèce de passion dont on ne peut pas se séparer. Et puis...
Et dont la description est frappante.
Et dont la description est frappante. Elle a été d'ailleurs adaptée au cinéma.
Récemment, par Catherine Breillat.
Par Catherine Breillat.
En 2007.
2007. Donc la description est frappante. Il y a des ambiances, extrêmement sensuelles, des scènes d'amour sur des peaux de bêtes. Des détails libertins, d'ailleurs, que Barbet a gommés. Donc, qui sont dans les manuscrits, qui ensuite ont été corrigés. Les variantes sont dans l'édition Quarto. Il y a des scènes qui sont vraiment osées dans Une vieille maîtresse. Et puis, il se passe quelque chose dans l'écriture de Barbet d'Aurevilly qui va, en fait, lui donner la voie qu'il va suivre. C'est qu'il déplace ses personnages en Normandie. Sa Normandie natale, dans laquelle il n'est pas retourné depuis plus de 10 ans. Et il se met à écrire les paysages des côtes du Cotentin, qu'il a connu quand il était enfant. Et en fait, c'est là que sa littérature se fabrique, sa littérature à lui, c'est-à-dire pas uniquement ces scènes de dandy et de femmes entretenues dans une atmosphère calfeutrée d'hôtels particuliers parisiens. C'est le courant d'air, disons, de ces paysages du Cotentin qui donne à Une vieille maîtresse un ton tout à fait nouveau et qui est la voie ensuite que Barbet va suivre pour ses romans suivants.
Tout en se défendant farouchement, bec et ongle, contre l'idée qu'il pourrait être un romancier régionaliste.
Mais il n'est pas un romancier régionaliste. Ce qu'il conçoit à la fin des années 40, en 48-49, c'est, il l'écrit à Trébutien, de faire du Shakespeare dans un fossé du Cotentin.
Donc, vaste programme.
C'est un vaste programme, mais qui fait penser à d'autres, à des romanciers anglais, comme Thomas Hardy, qui fait aussi du Shakespeare sur des landes d'une Angleterre réinventée, puisque les paysages de Thomas Hardy sont ceux du sud de l'Angleterre, mais il réinvente un pays qui n'existe pas, le Wessex. Mais il y a bien donc cette idée de situer des passions dans des paysages.
Quand je vous lis Judith Lioncan, j'ai le sentiment que cet enracinement très spécifique dans l'espace et dans le temps, loin d'être une gêne par rapport à notre curiosité, au contraire, peut y contribuer. C'est une curiosité qui m'est née en vous lisant.
Alors, il a été transmis comme un écrivain régionaliste, il ne faut pas non plus. D'abord, il est très présenté comme tel sur place. Il y a toute une, on peut faire des pèlerinages de Barbet d'Aurevilly, Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Fierté
locale. Bon, alors qu'il a très peu habité sur place. Il a été pris, disons, dans la réflexion sur le roman régionaliste a posteriori, puisque d'ailleurs la question ne se posait pas pour lui. Mais c'est plutôt l'idée d'ancrer des destins dans des paysages qui traversent fort bien le temps.
Eh bien, pour faire sentir, ressentir ce qu'a été cette Normandie pour Barbet, en tout cas la manière dont il l'a dont il l'a vu, dont il l'a éprouvé. Cet extrait du Chevalier des Touches, qui est un roman également important, ultérieur, de 12 ans par rapport à La Vieille Maîtresse, 1863. C'est un extrait qui est lu ici par Daniel Mesguich sur France Culture, le 12 octobre 1978. Vous nous direz après, si vous voulez bien, si de cette lecture ressort vraiment cette atmosphère spécifique de l'œuvre de Barbey d'Aurevilly qui peut justifier son actualité.
La demie de 8 heures, comme on dit dans l'Ouest, venait de sonner au clocher pointu comme une aiguille et vitré comme une lanterne de l'aristocratique petite ville de Valognes. Le bruit de deux sabots traînants troublait seul le silence de la place des Capucins, déserte et morne alors comme la lande du gibet elle-même. Tous ceux qui connaissent le pays n'ignorent pas que la lande du gibet, ainsi appelée parce qu'on y pendait autrefois, est un terrain qui fut longtemps abandonné à droite de la route qui va de Valognes à Saint-Sauveur-le-Vicomte et qu'une superstition traditionnelle la faisait éviter aux voyageurs. La pluie, qui était tombée ce jour-là, sans interruption, la nuit, on était en décembre, et aussi les mœurs de cette petite ville, aisée, indolente et bien close, expliquaient la solitude de la place des Capucins et pouvaient justifier l'étonnement du bourgeois rentré qui, peut-être, à côté sous ses contrevents strictement fermés, entendait de loin ces deux sabots grinçants et haletants sur le pavé humide.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Cette Normandie-là, Judith Lioncamp, elle est datée ou bien on pourrait la retrouver encore aujourd'hui du côté de Valognes? Vous y êtes allée?
Alors Valognes, c'est en effet une sorte de pèlerinage aurevillien. On peut traverser Valognes avec les yeux et même les oreilles de Barbey d'Aurevilly, puisque chez Barbey, la petite ville de province sonne. Les pas de celui qui entre dans l'église de Valognes résonnent dans le vide, etc. Mais comme dit d'ailleurs Barbey lui-même à propos de ce type de voyage, c'est un voyage à déception prévue. On ne trouve jamais ce qu'on imagine y trouver. Ce qui est très frappant dans cette Normandie et qui fait au fond qu'on peut la retrouver, c'est qu'elle est peinte, comme l'écrit Barbey, avec la sanguine concentrée du souvenir. C'est une phrase encore de sa correspondance avec Trébutien, justement lorsqu'il s'apprête à décrire les paysages de Normandie pour Une vieille maîtresse, puis pour le roman suivant L'ensorcelé, qui paraît en 1852, et dans lesquels on trouve de magnifiques descriptions de paysages, de landes en particulier, dont il a souvenir, mais pour lesquels il se documente avec une très grande précision, et d'ailleurs qu'on entend là dans le texte lu par Daniel Mesguich, une très grande précision topographique. Si bien qu'il fabrique comme ça des images de paysages qui sont belles à lire comme peuvent être belles à regarder des images, des gravures, des eaux-fortes. Chez lui, un vrai talent de paysagiste. Alors les landes du Cotentin n'existent plus. Elles n'existent plus parce que le remembrement de la deuxième moitié du XXe siècle a fait disparaître les haies, la plupart des haies, et donc l'humidité qui était retenue dans la terre et les alternances comme ça de paysages de landes et de paysages de bocages. Tout cet univers humide, brouillardeux, a un peu disparu. Donc aller le chercher dans le Cotentin actuel, c'est une aventure qui, disons, nécessite pas mal d'imagination.
Donc il faut s'appuyer sur l'œuvre de Barbey d'Aurevilly. On peut dire aussi, Judith Lioncamp, qu'un des aspects de ce personnage, c'est la pose qu'il prend comme un critique littéraire. Extrêmement aigu, sévère, avec un goût pour les formules assassines. Je vois qu'il dit par exemple de Sainte-Beuve, c'est un crapaud qui aimerait tant être une vipère. Et de Flaubert, oui, pardon.
C'est un esquinteur extraordinaire.
De Flaubert, qui n'aimait pas du tout, il dit, versons de l'eau de vie sur ce siècle d'eau sucrée, c'est Flaubert. Et puis Victor Hugo, alors qu'il n'aime pas du tout C'est précisément le mélange du talent parfois et de la platitude plus souvent, à propos des Misérables, qui rend l'exécution du nouveau roman de Victor Hugo formidable, non pas pour les esprits de haute lignée, où visiblement il se situe lui-même, Barbet, groupe solitaire et peu nombreux, mais pour la moyenne des esprits médiocres, qui en fin de compte sont ici-bas la majorité. Je trouve que cette citation rend assez bien
compte.
Il y
a chez lui une détestation, en tout cas construite, de tout ce qui peut être... la démocratie, la lecture populaire, l'imprimé de grande diffusion, la question sociale, enfin tout ce qui fait que le 19e siècle est aussi intéressant. Il se situe, il se construit dans une position de complet refus. Mais sa notoriété de critique littéraire, c'est aussi ce qui lui permet de vivre. Il a fait profession d'être un esquinteur et il fait ça avec énormément de talent. Il a une plume absolument assassine et on le lit pour le talent avec lequel il détruit les romans ou les textes qu'il commente. Alors, cela dit, il ne déteste pas tout le monde, puisqu'il est, par exemple, un des grands défenseurs de Baudelaire.
Au moment
des Fleurs du Mal,
au moment des procès,
il fait partie de ceux qui prennent la défense de Baudelaire et qui soulignent la moralité paradoxale des poèmes des Fleurs du Mal. Il est très proche de Baudelaire à ce moment-là. Enfin, il est proche de Baudelaire. Il y a entre eux quelque chose d'un regard sur la modernité, un sens du péché, du mal, qu'ils ont en commun, et il prend la défense de Baudelaire comme d'un poète paradoxalement chrétien.
Alors vous montrez très bien, au cours de vos travaux sagaces et savants, Judith Lioncan, que Barbet d'Aurevilly entretient avec le temps un commerce spécifique. Vous dites que dans le monde aurévilien, le mouvement de l'histoire et le rapport au temps s'incarnent à proprement parler. Ces relations avec une période rêvée qui est celle de la guerre des Chouans en particulier, de la guerre de Vendée, est au cœur de ceci.
Alors on peut revenir à ce début du Chevalier des Touches qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a deux choses frappantes, je crois. D'une part, cette arrivée dans la petite ville de province, le personnage dont on suit les pas va entrer dans un salon et le titre du chapitre est « Trois siècles dans un fauteuil » puisque les personnes qui y sont réunies sont si âgées que l'addition de leur âge dépasse les 300 années. On pense, il y a une forte, disons, proximité avec un texte de Balzac qu'il aimait beaucoup, qui est le Cabinet des Antiques, et qui se passe dans une autre petite ville de province normande, qui est Alençon, et où l'on trouve également figé, comme ça, dans une sorte de temps, immémorial, des visages, des personnages qui incarnent l'Ancien Régime. Et puis dans Le Chevalier des Touches, il y a une structure narrative que l'on va trouver dans la plupart des romans de Barbet d'Aurevilly, qui est que ce premier temps de rencontre avec des personnes âgées, il y a une pensée de l'âge chez lui qui est très forte. Ce premier temps de rencontre avec des personnes âgées va ouvrir à des récits qui sont des récits de souvenirs et qui donc vont nous décaler vers le temps de la jeunesse de ces personnes. Et le temps de la jeunesse de ces personnes, ce sera soit la fin de l'Ancien Régime, les années 1780, soit les guerres de Vendée, soit le tout début de la Restauration. Et donc c'est ce temps-là qui est au cœur des narrations normandes de Barbet d'Aurevilly, qui est pour lui le moment où l'histoire était vivante. C'est-à-dire, ce sont les récits qu'il a entendus enfant, les récits glorieux du temps de la chouannerie, et qui pour lui sont le temps de l'histoire vivante. L'autre temps de l'histoire vivante, c'est celui de son expérience de jeune homme à Paris. Mais son présent, celui où il écrit, celui donc du Second Empire, puis des débuts de la Troisième République, c'est un temps pour lequel il manifeste le plus grand désintérêt. C'est un présent vide. Donc il y a cette structure très singulière du temps, cette manière d'écrire l'histoire, où finalement le présent historique appartient à un passé révolu et le présent actuel, lui, semble presque évidé de toute disons, vivacité ou de toute, de tout désir.
Il rallie, mais peut-être de façon un peu désinvolte en profondeur le Second Empire.
Il rallie l'autorité. Il salue le rétablissement de l'autorité.
Mais c'est le temps où il continue de vivre, enfin, dans le passé, de nourrir par exemple le chevalier des Touches avec l'idée qu'il se fait de la période de la guerre de Vendée, des Chouans, et c'est aussi, c'est pourquoi je vais vous la faire entendre, le temps où surgit une chanson qui s'appelle Monsieur de Charette, que l'on croit souvent remonter à la période des Chouans, mais en fait qui est de 1853. L'auteur est Paul Féval, vous savez, l'auteur du fameux Bossu. Une chanson de 1853 qui est ici interprétée par Marcel Noblat. Elle me paraît assez bien rendre compte de cette sorte de rebond, comme une pierre sur de l'eau, d'une période à l'autre telle que vous l'évoquiez.
Monsieur de Charette a dit à ce danse-ni, Monsieur de Charette a dit à ce danse-ni, mes amis, le roi va ramener les fleurs de lys.
Quand on fugit très grave, prends un gourde pour boire,
prends la vierge d'ivoire.
Nos messieurs sont partis pour chasser la perdrix.
Monsieur de Charette a dit à ceux de Montfort, Monsieur de Charette a dit à ceux de Montfort, frappez fort, le drapeau blanc défend contre la mort.
Prends ton fusil Grégoire, prends ta gourde pour boire.
Vierge d'ivoire.
Nos messieurs sont partis pour chasser la perdrix.
Très bonapartiste, ce Paul Féval, en même temps qu'il porte cette nostalgie de la guerre des Chouans.
Alors, en tout cas, chez Barbet, c'est intéressant parce que dans le moment, disons, 48-49, lorsque ces hommes qui sont conservateurs ont la crainte que les Républicains gagnent, donc prennent le pouvoir, chez Barbet, il y a un moment où il pense qu'il va rejouer la chouannerie, pour de vrai. Voilà, que donc il va entrer en résistance contre l'ordre révolutionnaire. Et puis, les mois passant, le parti de l'ordre, disons, gagne, s'affirme. Voilà. Et donc l'hypothèse d'une deuxième république se fragilise, on va dire, dans les années donc 49-50. Et il passe d'une chouannerie comme ça, fantasmée, de l'idée qu'il va devoir prendre l'épée pour défendre la France éternelle, à une chouannerie de plumes qui nourrit les romans suivants, donc L'Ensorcelé, Le Chevalier des Touches.
Rappelez-nous le thème, la thématique de Des Touches.
Alors, il est question d'une expédition, dite l'expédition des 12, qui est un des derniers grands moments de la chouannerie, dont d'ailleurs Barbet avait entendu parler dans sa famille, puisque sa famille est réputée avoir chouanné. Et il évoque justement ce personnage, le Chevalier des Touches, qui est un personnage historique qu'il a rencontré à l'hospice de Caen, très vieux monsieur, dans un très mauvais état, mais il raconte dans le troisième mémorandum.
Toujours le commerce du grand âge, voilà. Avec le jeune homme chargé de perpétuer ce qu'il a dit.
Oui, c'est un homme qui est fasciné par les corps marqués par l'histoire. Alors ça se voit beaucoup dans ses romans, ce qui n'est pas d'ailleurs le moindre de leur intérêt, la manière dont les corps des personnes âgées portent l'histoire, enfin âgées ou moins âgées d'ailleurs, mais il rencontre Des Touches, il le raconte dans l'espèce de journal qu'il tient en 1856, lorsqu'il va à Caen justement rencontrer Des Touches. Il est évidemment un peu déçu puisqu'il n'y a aucune conversation possible avec ce très vieil homme qui avait été un des
prisonniers et on avait organisé l'évasion, c'est ça le thème.
C'est ça, alors le roman reprend cette histoire. Et voilà, donc il fait une sorte de roman historique, hein. C'est le plus historique de ses romans, c'est le plus convenable aussi.
Celui que j'ai lu à 12 ans, oui.
Voilà, c'est celui qu'on lit, moi aussi d'ailleurs. Voilà, c'est le plus convenable de ces romans qui racontent donc ces histoires de chouannerie. Mais on voit des chouans dans d'autres de ces romans moins convenables, en particulier dans le précédent.
Que je n'ai pas lu à 12 ans.
Qu'on lit moins à 12 ans, L'Ensorcelé, où il y a ce personnage effrayant qui est l'abbé de la Croix-Jugan, dont le village a été brûlé par les Bleus, et qui se promène avec ce visage absolument effrayant, mais néanmoins magnifique, sous son capuchon de religieux.
Alors je voudrais maintenant, Judith Lioncamp, que nous en arrivions pour le dernier moment de cette émission à l'œuvre qui peut-être reste la plus fameuse, Les Diaboliques, ce groupe de six nouvelles, publiées en 1874. Et vous avez choisi l'une d'entre elles, La Vengeance d'une femme, pour y consacrer une réflexion dans votre livre La Griffe du Temps, que j'évoquais tout à l'heure, une réflexion qui est très, très stimulante et qui n'est pas sans ramener aussi à des réflexions d'aujourd'hui.
La Griffe du Temps est un livre qui est construit comme une réflexion autour donc de la sixième diabolique, la dernière, qui est intitulée La Vengeance d'une femme et qui raconte l'histoire situé donc dans le Paris de la fin du règne de Louis-Philippe, de la rencontre entre un dandy, Robert de Trécigny, et une prostituée espagnole qui se révèle duchesse et grande d'Espagne. Alors, c'est la matière de cette nouvelle extrêmement romanesque qui sert, disons, de prétexte, de point de départ à une réflexion sur ce que les historiens peuvent dire, peuvent faire avec un texte de littérature.
Rappelez-nous la trame de cette histoire étrange.
Un dandy, donc Robert de Trécigny, se promène sur le boulevard des Italiens à la fin du règne de Louis-Philippe. Il est accroché par une femme qui porte une robe jaune et qu'il suit dans
ah
un
oui,
passage.
Ah oui, le jaune, nous avons parlé du jaune dans une émission avec Michel Pastoureau. Et d'ailleurs, dans son livre sur le jaune, il évoque cette nouvelle.
Oui, c'est le jaune des prostituées qui était disons, cette symbolique des couleurs était présente encore au XIXe siècle. Et donc, il suit cette femme dans un passage, monte donc dans son appartement de fille, et là, connaît une aventure sensuelle qui le surprend, dans la mesure où il est censé être un dandy blasé en matière de femmes. Et il se rend compte, chemin faisant, disons au cours de leur étreinte sensuelle, que cette femme espagnole fixe un médaillon, qu'elle regarde comme ça, une figure d'homme, et donc il lui demande de raconter son histoire. Et elle se révèle à ce moment-là, donc duchesse et grande d'Espagne, venue à Paris se prostituer pour se venger de son mari qui a fait assassiner de la manière la plus atrocement cruelle qui soit l'homme qu'elle aimait pourtant chastement.
Il lui a fait manger son cœur, c'est
en faisant manger le cœur de cet homme par ses chiens. Alors, il y a là le souvenir chez Barbet d'histoires qui étaient des histoires médiévales qui ont l'histoire de cœur mangé. Qui ont connu une sorte de fortune par l'intermédiaire de plusieurs écrivains à la fin du XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle. Donc il y a cette thématique de conte du cœur mangé. Et alors ce texte m'intéressait particulièrement parce qu'il est écrit très serré, qu'il est particulièrement fermé sur lui-même avec cette espèce d'univers dont un historien semblerait avoir peu à dire, tant il est, disons, extravagamment romanesque. Et pourtant, j'étais frappée à plusieurs reprises en lisant et en relisant cette nouvelle, puisque je l'ai éditée donc dans le volume de Quarto, j'étais frappée par ce qu'on pourrait appeler sa densité mémorielle. C'est-à-dire que tout se passe comme si, en tout cas c'est la réflexion que j'essaie de mener dans ce livre, la nouvelle littéraire servait de lieu dans lesquelles les traces de l'expérience de la ville, qui a été celle de Barbet d'Aurevilly, de 30 ou de 40 ans sous le Marché de Juillet, donc des traces d'une expérience de la ville qui était une expérience d'écriture, une expérience de lecture, une expérience de promenade, une expérience de flânerie. Le texte porte la mémoire de tout cela.
Oui, nous avons parlé de Barbet d'Aurevilly et la Normandie. Il y a Barbet d'Aurevilly et Paris. Il a beaucoup à nous dire sur Paris disparu et Paris d'aujourd'hui. Je vais vous faire entendre, vous l'attendiez, j'imagine, un extrait du début de la nouvelle, une des diaboliques, qui s'appelle La Vengeance d'une femme.
C'est une lecture de Vanda Benesch sur France Culture le 18 avril 2019, toujours la même émission.
Vers la fin du règne de Louis-Philippe, un jeune homme enfilait un soir la rue basse du rempart, qui dans ce temps-là méritait bien son nom de la rue basse, car elle était moins élevée que le sol du boulevard et formait une excavation toujours mal éclairée et noire, dans laquelle on descendait du boulevard par deux escaliers qui se tournaient le dos, si on peut dire cela de deux escaliers. Cette espèce de ravin sombre où l'on se risquait à peine le jour était fort mal hanté quand venait la nuit. Le diable est le prince des ténèbres. Il avait là une de ses principautés. Il y avait un passage étroit et non couvert où le vent, pour peu qu'il fît du vent, jouait comme dans une flûte et qui conduisait le long d'un mur et des maisons en construction jusqu'à la rue Neuve des Mathurins. Le jeune homme en question, et très bien mis du reste, qui venait de prendre ce chemin, lequel ne devait pas être pour lui le droit chemin de la vertu, ne l'avait pris que parce qu'il suivait une femme qui s'était enfoncée sans hésitation et sans embarras dans la suspecte noirceur de ce passage.
Ben voilà votre nouvelle, la vengeance d'une femme. Il y a d'abord cette description d'un Paris disparu et pourtant à certains égards permanent, non ?
Alors c'est toujours la sanguine concentrée du souvenir, puisque, comme le texte d'ailleurs le dit, au moment où il est écrit, c'est-à-dire au début des années 1870, ce paysage urbain, c'est-à-dire ces rues qui se trouvaient en contrebas du boulevard, a été effacé par la construction des rues adjacentes à la place de l'Opéra.
Ça renvoie directement au cher Baudelaire, si cher à Barbey d'Aurevilly. Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville, change plus vite.
Hélas, que le cœur d'un mortel. Alors, il n'y a pas de déploration chez Barbey, comme elle existe d'ailleurs chez des écrivains contemporains, y compris Victor Hugo, de la disparition du vieux Paris. Autant il est très nostalgique lorsqu'il s'agit des paysages normands, autant il n'y a pas de déploration d'une ville qui, pourtant, qu'il a aimée, qu'il a arpentée et qui est en pleine transformation à cause de l'haussmannisation à partir du début des années 1860. En même temps, il inscrit dans le décor, donc et presque dans la chair même de cette nouvelle, une morphologie urbaine qui a disparu au moment où il écrit, si bien d'ailleurs que c'est un des éléments qui font que ce texte a une très forte densité mémorielle, puisque la description que l'on vient d'entendre est une description qui est d'une très grande exactitude. C'est-à-dire que même les magasins de bric-à-brac, qui pourraient sembler au lecteur, là, disons, pour meubler ou pour colorer la description, même les magasins de bric-à-brac existaient. Il suffit de prendre un annuaire de l'année 1846 ou 1847 pour trouver les 5 ou 6 antiquaires et magasins de bric-à-brac qui existaient dans cette portion de la rue basse du rempart qui avait disparu ou était en train de disparaître au début des années 1870. Donc ce passage que l'on vient d'entendre, même s'il est question du diable et des ténèbres, est un passage qui est d'une très grande exactitude dans la description topographique et morphologique.
Barbey disait à propos du diable, l'amour chez moi est presque toujours lié à une malédiction.
Alors ça, c'est la dimension d'apologétique paradoxale de Barbey d'Aurevilly, c'est-à-dire qu'il est question dans ses nouvelles de péché, d'amour impossible, de blasphème, de profanation, le tout étant porté par un projet qui s'affiche et s'affirme fortement comme catholique. Donc il y a cette dimension-là dans la nouvelle.
Et une autre dimension qui est évidemment la place de la prostitution. Voilà. Vous reconnaissez, vous rendez hommage évidemment aux magnifiques travaux d'Alain Corbin sur les filles de noces. Et la prostitution est la hantise du mal vénérien.
Puisque cette femme qui vient à Paris pour déshonorer le nom qu'elle porte, elle va le déshonorer, disons, pratiquement, en attrapant la syphilis, puisqu'elle meurt, le narrateur dit, cariée jusqu'à l'os, syphilitique. Il y a même une scène, l'évocation d'un moment où elle perd son œil sur le boulevard, son œil tombe. Donc la duchesse d'Arcos de Sierra Leone, puisque c'est son nom, toute grande Espagne qu'elle soit, est d'abord une prostituée du boulevard et Barbey participe de cette littérature prostitutionnelle que Corbin avait beaucoup analysée et étudiée dans Les Filles de Noces, en notant que dans ces années 1870, qui sont un des moments où le débat sur la prostitution, sur la réglementation de la prostitution, sur l'abolition de la prostitution, qui sont des débats qui sont d'ailleurs toujours actuels, le débat est particulièrement vif et se concentre autour de cette hantise du péril vénérien.
C'est le temps où, enfin peu après, où Brieux fait donner au théâtre cette fameuse pièce qui s'appelle Les Avariés, 1902 je crois, qui développe le même thème et la même obsession.
Mais on trouve cela dans quantité de romans. Alors d'abord dans Nana, qui meurt, disons, d'une vérole dont on ne sait pas si c'est une vérole littérale ou une vérole métaphorique.
Zola.
Oui, chez Zola. Dans quantité de romans, il existe un volume dans la collection Bouquins sur ces romans prostitutionnels de la fin du 19e siècle, où toute histoire avec une prostituée tourne autour de la hantise du mal vénérien, de la syphilis.
Une autre thématique que vous mettez bien en valeur en étudiant cette nouvelle, Judith Lioncamp, que vous reprenez complètement dans votre livre « La griffe du temps », c'est la question de l'obscénité. Autrement dit, la question des bonnes mœurs. Comment les définir? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? En 1881, au moment de la loi sur la liberté de la presse, un des parlementaires, d'ailleurs de droite, avait dit « mais on ne peut pas fixer les bonnes mœurs, ça change tout le temps ». La loi n'a pas à s'en mêler, mais le romancier a à s'en mêler, visiblement.
Alors, d'abord, à deux titres. D'une part, parce que les diaboliques, en 1874, ont frôlé le procès pour outrage aux bonnes mœurs.
Interdites d'abord, d'ailleurs.
Elles ont été retirées de la vente pour, disons, éviter le procès, si bien d'ailleurs qu'elles ne reparaissent qu'en 1882.
Et traduites aussitôt à l'étranger.
Oui, alors traduites, mais disons que l'édition de 1874 a disparu, et c'est justement après la loi de 1881 qui redéfinit quand même le domaine de l'outrage aux bonnes mœurs dans la littérature, à une pornographie, disons, plus restreinte, même s'il y a énormément de débats là-dessus. À ce moment-là, ce sont les travaux d'Anistora Lamarre. Donc, les diaboliques relèvent de cette question des bonnes mœurs en tant que projet littéraire. Mais dans la nouvelle de Barbet, dans La vengeance d'une femme, il y a une réflexion sur l'obscénité. Et disons qu'elle m'a aussi servi à lancer une réflexion sur l'obscénité, puisque le personnage, donc Robert de Trécigny, dans le cabinet de la prostituée, voyant cette femme qui se déshabille, pense à une statuette qu'il aurait vue à la montre d'un marchand de bronze, une statuette de bronze, et qui aurait suscité chez lui un dangereux rêve obscène.
Madame Husson.
Alors, et qui aurait porté ce nom, Madame Husson. Alors, ça fait partie du projet de ce livre que d'enquêter sur cet objet de fiction, précisément parce que cela ouvre à une réflexion qui est une réflexion proprement historique sur ce qu'étaient les contours de l'obscénité dans les années 1840. Et il me semble que, en tout cas ce que j'essaye de montrer, que de s'appuyer sur une statuette fictive, car de Madame Husson, il n'y a pas d'équivalent, disons, dans la réalité, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, et pourtant je l'ai bien cherché, cette statuette qui s'appelle Madame Husson et qui aurait suscité un rêve obscène, que pouvait-elle être? Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait voir à la montre des marchands de bronze en 1840 qui pouvait susciter chez un passant un rêve obscène, ce qui signifie donc qu'elle n'était pas un outrage aux bonnes mœurs en tant que telle, parce que sinon on ne l'aurait pas vue à la montre des marchands de bronze. Voilà, donc à partir de là, j'essaye de contextualiser cette statuette de fiction et dans le jeu de la contextualisation de restituer les paysages de l'obscénité 1840. Et pour cela, je passe par, évidemment, la littérature érotique et puis beaucoup par la lithographie érotique de l'époque qui est très riche, très bien conservée, très bien connue.
Les premières photographies qu'on se distribue sous le manteau. Barbet aimait beaucoup la photo.
Alors, cette obscénité romantique, celle de Madame Husson, ça n'est pas l'époque de la photographie,
intérieure.
C'est plutôt l'époque de la lithographie coloriée qui est encore très développée dans les années 1840. Mais il est vrai que le développement de la photographie, en particulier des photocartes de prostituées dans les années 1850-1860, va complètement démoder cet érotisme 1840 dont le texte porte la trace.
Et tout cela vous conduit en somme à une réflexion explicite sur ce que chaque période peut considérer comme obscène. Où est la limite des bonnes mœurs, sachant que dans nul moment de l'histoire, on ne laisse le droit de montrer n'importe quoi.
Disons que le Madame Husson permet de plonger dans un univers de pratiques, d'artisans bronziers, d'images que l'on manipule, que l'on regarde, que l'on vend. C'est plutôt une tentative d'approcher l'obscénité non pas par la voie directement juridique, ce qui peut se faire, mais en l'abordant par le biais des circulations d'écrits, d'images, notamment donc de ces lithographies à transformation ou probablement de ces statuettes qui étaient à moitié scandaleuse, c'est-à-dire qu'il suffit sur une statuette de bronze de relever un tout petit peu la tunique d'un nu à l'antique, de placer le pli de la draperie à un endroit précis pour que le nu antique devienne un nu scandaleux. Et Barbel écrit « Les marbres sont nus et la nudité est chaste ». Cette nudité-là est chaste, mais qu'est-ce qui fait que cette nudité peut devenir licencieuse, obscène, scandaleuse? Elle est là, la limite de cette époque-là. Nous en avons d'autres, dans d'autres rapports à la nudité. Mais je pense que cette exploration des limites de ce qui fait que l'œil est choqué, de ce qui fait que l'œil est troublé, mérite d'être historicisé.
Nous allons nous en tenir là, hélas, Judith Yoncan. Je relève pour conclure un propos d'Emmanuel Loyer, qui connaît bien Barbey de Réville, qui disait que c'était une littérature intempestive, férocement inactuelle. À vous écouter, j'en doute un peu.
Je ne suis pas absolument certaine que Barbey soit inactuelle. En tout cas, certaines des nouvelles des diaboliques, justement par le trouble érotique qui est en leur cœur, traversent le temps assez bien.
Merci, nous resterons sur ce trouble avec votre accord. Le livre Judith Yoncan sur lequel nous avons fondé cette conversation, commentaire de la nouvelle des diaboliques, La vengeance d'une femme, ce livre s'intitule La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature. Ce livre vient de paraître chez Gallimard l'année dernière, en 2019. Vous avez également donné une édition dans la collection Quarto des romans de Barbey d'Aurevilly, avec une préface très substantielle, collection Quarto, en 2013. Vous proposez également un livre qui s'appelle « La lecture et la vie, les usages du roman au temps de Balzac », paru chez Talendier en 2006. Et puis enfin, je voudrais signaler le livre que vous avez publié avec Dina Ribard, qui s'appelle « L'historien et la littérature », paru à la Découverte en 2010. Barbey d'Aurevilly s'intéressait aux sorcières ?
Il y a quelques figures de vieilles femmes, de sorcières dans L'Ensorcelé, notamment ce personnage fascinant parce qu'elle est aussi une gardienne du temps et des souvenirs qui la clotte.
Eh bien voilà une transition pour la semaine prochaine, merci. Samedi prochain, nous évoquerons les sorcières, à la fois haïes et fascinantes, avec un grand spécialiste du sujet, Michel Porret. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitille Gavrilov, avec aussi Claire Poinsignon, une émission réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Valentin Bobinet, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique de Saint-Pastou. Et dans quelques instants, l'émission de Christine Ockrent, Affaires étrangères.